Bonjour,
Catherine Gondron, amie des Moranges. Je suis originaire de Guise, dans l'Aisne. Et j'ai connu sans doute M. Rabeau, qui était le directeur du commissaire de Guise, qui est le parrain d'un de mes frères. Donc j'ai vraiment vécu tout ça, et pour moi, j'ai eu la chance d'être invitée, parce que c'est vraiment mon enfance. Et ce que je trouve de drôle, c'est que vous appeliez ça un palais. Parce que pour moi, c'était pas un palais. Non. Mais par contre, j'ai connu M. Rabeau qui vivait au milieu des ouvriers, dans un appartement qui était quand même, pour moi, j'avais donc 10-12 ans, on allait chez lui. C'était beau, c'était luxueux. Mais on sortait avec tous les ouvriers dans la cour. Et ça, c'était sans doute assez difficile pour le ménage. Parce que Mme Rabeau n'aimait pas tellement ce genre de choses. Et elle aurait bien aimé avoir une maison à l'extérieur. Mais c'était la loi, c'était le... Et vraiment, je suis contente, je vous remercie d'avoir appris plein de choses. Voilà.
Là où Gaudin est très généreux dans l'esprit de Fourier, c'est que Gaudin pense que les classes sociales doivent être mélangées. C'est pas l'égalitarisme, il y a des riches et des moins riches. Il n'y a pas de pauvres. Tout le monde mange à sa faim, tout le monde a un toit. Mais il y a des gens qui méritent plus, qui travaillent plus, et qui sont plus doués que d'autres, et qui donc sont payés plus. Ce n'est pas de l'égalitarisme, mais il pense que les classes sociales doivent être mélangées. Il a un texte qui me semble très riche encore pour aujourd'hui. Il dit que les quartiers... On ne peut pas faire des quartiers de pauvres, c'est très dangereux, et que par ailleurs, le mélange des classes sociales est une richesse, non seulement pour les pauvres qui vont apprendre, mais aussi pour les riches qui se sont peut-être un peu enfermés dans une manière de vivre, et les pauvres gardent une simplicité, les classes populaires gardent une simplicité, une fraîcheur, que parfois les classes plus bourgeoises ont perdu. Et donc pour lui, le mélange des classes est très important, et ça rejoint tout à fait l'idée de Fourier, c'est que la diversité des passions, chacun se développe grâce à la diversité et à la diversité des passions. Donc c'est la Et pour finir, Zola est venu au Familistère, et Émile Zola avait été effrayé du Familistère parce qu'il ne comprenait pas qu'on puisse vivre comme ça les uns à côté des autres, et il craignait la surveillance. Et Zola, qui par ailleurs est un fourriériste, son dernier livre qui s'intitule « Travail », il imagine un phalanstère, Zola. Ce phalanstère est assez inspiré de celui de Gaudin, pas du tout sur le plan de l'architecture, et à mon sens, Zola reste très petit bourgeois, il faut que chacun ait son chez-soi, chaque famille bien séparée avec son petit jardin. C'était tout l'inverse pour Gaudin, il fallait que tout le monde soit ensemble, il fallait que tout le monde vive ensemble, et la promiscuité, bon, chacun a quand même son appartement, mais pour lui c'était plutôt l'idée de solidarité, on vit ensemble parce que c'est le plaisir de vivre ensemble.
Du Familistère aux sociétés coopératives, il n'y a qu'un pas à faire. Alors je crois que Pierre Liret, qui est responsable de la communication à la Confédération des SCOP, voudrait nous dire un mot. Les SCOP sont des sociétés dont les salariés sont décideurs. Alors quel parallèle pouvez-vous faire?
Je crois que ça a été dit par Laurent Boucher. La devise de Charles Fourier, c'était donc l'association du capital, du travail et du talent. Et en effet, donc avec Jean Gauthier, qui est secrétaire général de la CGSCOP ici présent, et Jean-François Drapry, donc, qui est donc chercheur enseignant au CNAM, mais ils se présenteront un petit peu rapidement tous les deux, on représente en effet la branche de la mise en œuvre de l'harmonie par le travail, donc sous forme coopérative, en essayant de vivre ensemble les uns avec les autres, tout en essayant de respecter l'individualité de chacun. La coopération représente un peu la branche économique des idées de Fourier. Donc juste pour ce qui me préoccupe moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire que cette idée coopérative, au fond, à la fois, elle est très marginale, elle reste encore marginale, et pour autant, elle est toujours aussi vivace et toujours aussi vivante. Donc moi j'ai en fait intégré la Confédération des SCOP il y a 4 ans et demi, j'ai travaillé moi-même dans une SCOP pendant 6 ans, et j'ai la mission justement de faire en sorte que cette idée de SCOP et cette idée de coopération de production perdure et se développe. Donc pas plus tard qu'hier, j'ai encore acheté une brochure qui s'appelle « Créer son entreprise », et bon, les efforts qu'on fait commencent à porter, puisque le statut SCOP maintenant commence à s'inscrire un petit peu partout parmi d'autres statuts.
je vais dire, puisqu'à un moment ou à un autre, il faut traduire ça dans les règles du jeu, notamment juridique, et que c'est d'abord, au plan sec du terme, la SCOP, c'est d'abord un statut juridique avant d'être un projet politique, enfin, à l'issue d'un projet politique. Voilà, je ne dirai pas plus. Je crois que, pour tout ce qui concerne le domaine historique, mes deux voisins sont beaucoup mieux placés que moi, donc je vais le faire.
Je vous
connais
ce que c'est qu'une SCOP.
Alors, Jean Bottier, secrétaire général de la Confédération générale des SCOP. SCOP, ça veut dire Société coopérative ouvrière de production. Le premier statut de coopérative, les premières expériences en France et en Grande-Bretagne, entre Vienne, des Écluses, certainement, de Fourier, de Rouen. Alors, après, mais je reviendrai pas sur cette histoire, il y a eu, je pense que Jean-François Drapé pour en parler mieux que moi, la branche de la coopération de production s'est limitée au domaine du travail et de l'adaptation de l'homme au travail pour en faire, en tout cas dans la suite de ce que Godin a représenté, pour en faire un lieu où les travailleurs de l'entreprise sont en même temps les propriétaires de l'entreprise. Quand Godin a donné à ses travailleurs la propriété sociale de son entreprise, et aujourd'hui, dans les coopératives de production modernes, eh bien, il y a exactement le même principe. Alors, simplement, pour vous donner Pierre Guiret, qui est en charge de la communication à la Confédération, c'est lui qui est responsable. Les SCOP sont mal connues et pourtant elles représentent aujourd'hui près de 1800 entreprises qui ensemble emploient 35 000 travailleurs qui sont pour 70% d'entre eux les propriétaires de leur entreprise. Et ils sont propriétaires de ces entreprises et à ce titre, ils dirigent leur entreprise et ils élisent leurs dirigeants. Et suivant un principe qui est généralement bien connu, qui est le principe un homme ou un associé, un sociétaire, une voix. Alors, les coopératives sont issues du courant des communautés de travail et des systèmes communautaires. Elles existent dans tous les pays du monde. Il en existe aux États-Unis, bien entendu, à la suite des expériences de Victor Considérant, mais sous la forme plus moderne de coopératives de production. Juste pour vous donner une illustration, vous connaissez, je suppose, une société qui émet des titres restaurants qui s'appelle Chèque Déjeuner et qui est aujourd'hui une de nos coopératives les plus importantes, la plus grande de nos coopératives de production, mais pas très, très loin d'ici, elle est dans la Manche. Elle emploie 1200 salariés, elle fabrique des câbles téléphoniques et ils sont tous copropriétaire de cette entreprise depuis maintenant plus de 70 ans. La plus ancienne de nos coopératives existantes est une coopérative qui travaille dans le livre. Après l'expérience de Godin, il y a eu notamment en 1906 des grandes grèves dans le livre et un nombre considérable d'entreprises d'imprimerie se sont transformées en coopératives. Alors cette entreprise la plus ancienne de notre mouvement s'appelle La Nouvelle, l'imprimerie nouvelle. Elle a 140 ans, elle existe toujours. Voilà. Mais sur la partie historique, je pense que Jean-François peut apporter des compléments. Et bien entendu, si vous souhaitez encore vous en parler au cours du déjeuner.
Merci, Jean-François Drapé. Donc, je suis directeur du Centre d'économie sociale au CNAM, conservatoire national des arts et métiers, et rédacteur en chef de la RECMA, Revue des études coopératives mutualistes associatives, qui est l'héritière de la revue La REC, qui avait été créée par Charles Gide et Bernard Laverne en 1921. Donc, là, c'est... Je vous remercie de donner le micro, mais là, je n'ai rien préparé de particulier. Je voudrais dire deux, trois petits mots quand même sur l'actualité de Fourier, de Godin et des SCOP. En fait, il y a un creuset commun qui est effectivement le mouvement associationniste, et c'est le précurseur, ou en tout cas ses inspirateurs, et qu'Henri Desroches avait pointé comme étant la phase, en quelque sorte, de la micro-république communautaire, quoi, hein, où on imaginait une autre façon de vivre ensemble, et pas seulement dans la production, ou dans la mutualité, ou dans la consommation, ou dans l'habitat, mais dans l'ensemble des activités. C'est seulement après, le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte que se séparent, en fait, les voies mutualistes et coopératives en particulier, qui font qu'éclate en fait cette unité qui était qui est celle qu'on essaye de retrouver aujourd'hui à travers le terme d'économie sociale ou d'économie sociale et solidaire, en disant qu'il y a une autre façon d'entreprendre, mais également de vivre, de consommer, de mutualiser, etc. Donc, je crois qu'il y a un ancrage commun dans les coopératives et Fourier et l'un des inspirateurs uniquement, parce qu'en fait, on a bien vu que Gaudin, au ministère, reprend Capital, Travail, Talent avec le partage des excédents de gestion, 5% au travail, 4% au capital et 3% au talent. Mais, par exemple, dans la Confédération Générale des SCOP, qui s'inspire des principes de Jean-Philippe Duchesne, eh bien, il n'y a pas de rémunération du capital. Alors ça va, il n'y a que la rémunération du travail. Et donc, ça va isoler Gaudin dans l'histoire du mouvement coopératif. Et même lorsqu'en 1968, il va vendre au côté, les héritiers vont vendre au côté, eh bien, il y aura des mots un peu durs de la Confédération Générale des SCOP pour dire oui, mais enfin, il n'avait pas respecté les principes duchésiens, il était dans la tradition fourriériste. Depuis, les positions ont un peu évolué, puisque depuis la loi de 1992 en particulier, on peut rémunérer le capital de façon très limitée, bien sûr, et on rejoint la Confédération Générale des SCOP, rejoint quelque part Fourier et Gaudin. Par contre, ce que je voulais dire aussi, on a insisté sur la parenté Gaudin-Fourier. Peut-être ça vaut la peine aussi de dire les différences, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi on a échoué à Citeaux, ou à Condé-sur-Bègre, ou au Texas, ou ailleurs, et pourquoi Gaudin a réussi. Parce que Gaudin a réussi quand même, ça a duré un siècle, son expérience, et puis ceux qui sont allés à Guise une fois, on garde un souvenir évidemment marquant. Et d'ailleurs, Gaudin a quand même eu une place extrêmement importante dans le mouvement coopératif. C'est au moment du centenaire de la mort de Jean-Baptiste André Gaudin en 1988, où j'accompagnais Henri Desroches à ce moment-là, où il y a une tête très intéressante au Familistère, où on a pu découvrir le nom des personnes qui étaient passées au Familistère, qui étaient venues du monde entier pour découvrir le Familistère, qui a été jusqu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, le lieu de ralliement pour ceux qui croyaient à la possibilité d'une alternative par l'expérimentation. Donc ça a été, alors qu'à ce moment-là, déjà, les coopératives de production, de consommation et mutuelles s'étaient séparées sur le terrain. Et bien, à Guise, on a tout ça en même temps. Néanmoins, je crois que Gaudin, en élaborant le ministère, a critiqué Fourier aussi. Il a dit que Fourier a fait des graves erreurs sur l'identité de la nature humaine, en quelque sorte. Puisque.
C'est vrai. Je demande pas de.
J'arrête juste en disant ça. Simplement pour la différence que Fourier et Gaudin. Excusez-moi. Fourier, on l'a dit, va s'appuyer sur la réalisation des passions, l'être harmonien. Et Gaudin considérait que l'être humain était un être progressif. Progressif. Je vous donnerai les références si vous voulez. Il était ce qu'il se faisait lui-même. Et ça traduit toute la place de l'éducation qu'on trouve au Familistère.
C'est dans les coopératives.
Pour ce débat, j'étais les bases d'un nouveau colloque. J'ajoute que, je vous l'ai dit, le Familistère est représenté. Pour en finir avec Gaudin, pourrions donner la parole quelques instants à Frédéric Pagny qui est là, et puis nous pourrons passer ensuite à d'autres branches de l'utopie.
Juste dire deux mots
en demandant à M. Richard. Excusez-moi, Simone de Beauvoir voudrait répondre.
Je connais surtout par les ranchs, justement, ah oui. la communauté d'Oneidar.
La communauté
d'Oneidar. Ça se trouve en Amérique du côté des Mormons, maintenant. Je ne sais pas.
Non.
Parce qu'elle ne connaissait pas Fourier. Mais il y a eu une expérimentation qui a duré 30 ans. Réussie économiquement, c'est-à-dire une coopérative tout à fait, et d'autre part, un système de libres amours, mais totalement, comme il n'y avait pas du tout chez Gaudin, naturellement. Et c'était Oneida, je le connais encore une fois par des roches, mais j'ai des amis qui ont été sur le territoire des Mormons, qui maintenant n'ont plus rien à voir avec Oneida, qui a failli au bout de 30 ans, mais qui a marché 30 ans très bien.
J'ai pas compris, techniquement, en fait, je connais très bien la communauté de Oneida, voilà, qui était, mais d'ailleurs, le chef de la communauté de Oneida était un homme qui était influencé par Fourier, mais aussi par Owen, enfin, qui avait beaucoup...
Je crois qu'il te connaissait très mal.
Il le connaissait mal, oui, c'est vrai, mais c'est vrai aussi que ça existe toujours, la communauté d'Oneida, et d'ailleurs avec ma femme et mes enfants, j'y suis allé, et c'était l'histoire, c'est un peu comme l'histoire du ministère de Guise, parce que il y a 50 ans, la communauté d'Oneida est devenue privée. Privé et capitaliste. Et alors maintenant, ça continue parce qu'il produit des silverware. Ils font de l'argenterie. Mais alors maintenant, c'est une communauté capitaliste comme les autres, mais il avait toute une histoire très, très intéressante.
C'est assez émouvant, donc je vous remercie d'avoir organisé cette manifestation. J'ai évidemment tout part dans ce que vous avez dit à quelqu'un qui travaille sur le saint-simonisme. Par exemple, le Ménilmontant, qui a un rapport difficile avec le fourriérisme. Ménilmontant, l'expérience de la retraite de Ménilmontant, donc sur les hauteurs de Paris, hein, la séparation par rapport à Paris. Vous vous souvenez dans l'exposé qu'on a entendu, chez les fourriéristes, il faut un certain écart. Ménilmontant est une retraite. Ménilmontant est également un spectacle. En aucun cas, et c'est une différence par rapport à ici, Ménilmontant ne veut produire quelque chose. C'est pas quelque chose, c'est pas une économie de production. Il s'agit de donner le spectacle d'une utopie pour que les Parisiens qui viennent par milliers s'emparent de l'idée et commencent quelque chose. Et donc, cette idée du spectacle qu'on trouve chez Fourier, Enfantin la partage. C'est pas par hasard, c'est parce qu'à l'évidence, Enfantin est parmi les Saint-Simoniens un de ceux qui ont lu tôt et beaucoup Fourier. C'est le cas également de Charles Lambert, mais c'est le cas aussi de d'Alain Rodrigue. Et Jonathan Beecher nous a révélé il y a un ou deux ans, par des archives qui sont arrivées à Stanford aux États-Unis, qu'Alain Rodrigue avait lu de près Fourier. Donc, entre eux, même si par la suite les querelles d'école et de secte font qu'on a eu tendance à se représenter des choses très tranchées, il n'y a évidemment pas de muraille de Chine entre les uns et les autres. Simplement, je pense qu'il y a des différences. Et une de celles qu'on peut situer, elle est du côté de l'État, du rapport à l'État, et du côté de l'échelle, de l'expérience. Il y a eu d'autres choses contemporaines à la même époque où les Saint-Simoniens ont été davantage impliqués. L'une à Kerema, en Bretagne, l'autre à Vauzelles, dans l'Indre, près de Châteauroux, sous la direction d'Alexis Petit, une autre encore dans les Landes, autour d'une société d'amélioration des Landes, conduite par un Saint-Simonien qui s'appelait Cazot. Mais toutes ces expériences-là n'étaient pas cautionnées par la direction saint-simonienne. Pour une simple raison, c'est que l'échelle était trop petite pour eux et ça ne faisait pas intervenir l'État. Les expériences saint-simoniennes, c'est le crédit immobilier avec les Pérettes et le soutien massif de l'empereur. C'est le PLM de Talabot. Ce sont donc dans chaque cas... des expériences qui sont à l'échelle au moins du territoire, sinon de l'Europe, et qui mobilisent des capitaux beaucoup plus importants. Cela dit, vous savez, et je terminerai là-dessus, vous avez ici une petite bibliothèque, hein, dans cette petite pièce, qui est tout à fait sympathique. Eh bien, Enfantin, se posant le problème des archives saint-simoniennes, a eu la bonne idée de faire qu'elles soient conservées à la postérité. Et en Saint-Simonien, il s'est adressé à l'État, à Napoléon III, et à l'époque c'était Victor Duruy qui était ministre de l'Instruction publique, et il a négocié avec la bibliothèque de l'Arsenal, bibliothèque d'État, le don de ses archives, mais il voulait à l'époque faire non pas une bibliothèque saint-simonienne, mais, disait-il, une bibliothèque des sciences sociales. Et c'est si vrai qu'il avait demandé aux fourriéristes de lui fournir un échantillon, une espèce de dépôt légal, si vous voulez, de chaque publication fourriériste pour qu'elle entre à l'arsenal. Malheureusement, le Second Empire n'a pas cautionné l'idée, elle était évidemment un peu dure pour les bonapartistes, et là, il y a simplement, dans le fond enfantin, un certain nombre de brochures et de journaux fourriéristes qui sont arrivés à ce titre, hein, de constituer une mémoire des sciences sociales. Évidemment, non séparable, et là je pense à ce que disait Pierre Merlet, non séparable d'une pratique. C'est une autre époque de la sociologie, une autre époque de la philosophie, une autre mentalité, mais où l'idée et l'engagement social n'étaient pas séparables. Donc, tout ce que vous avez dit ici même, dans cette galerie, je pense que vous allez nous expliquer... à quoi ça servait, mais ça m'a rappelé la galerie Ménilmontant, un Ménilmontant aussi qui était au départ une demeure privée, mais une grande propriété. On avait institué une galerie qui était le lieu où tout le monde se retrouvait et où on copiait les archives. On avait transformé ça en atelier de copiste. Donc vous voyez, les correspondances sont infinies et les parentés idéologiques sont beaucoup plus fortes que la représentation historiographique qu'on en a à présent. Donc, je profite pour faire un tout petit peu de publicité pour ce que Nathalie Coyer, qui est conservateur à l'Arsenal, et moi-même entreprenons ce moment. On va donc, à l'automne, en octobre, présenter à l'Arsenal une exposition, et on a beaucoup tenu à ce que ça ne soit pas enfermé sur le saint-simonien exclusivement, mais à ce qu'une ouverture soit ménagée vers les autres utopies contemporaines, parce qu'on ne peut pas séparer tout cela.
Merci.
Vous avez fait allusion à Kerema. Je crois que Olivier Figro a quelque chose à nous dire sur cette expérience.
Bonjour, en fait, je suis son père. Olivier Figuereau a été étudiant à Brest en géo-architecture de l'environnement. Et pour passer son diplôme, pour le concrétiser, il a fait une étude sur le domaine dit de Kerema à Sneven, environ 40 km au nord de Brest, qui représentait un projet au départ qui était grandiose, mais que malheureusement, il voulait arriver jusqu'à la Falanstère, mais malheureusement, ils n'ont pas pu y parvenir. Ils ont englouti la fortune de Emma Rousseau, c'est elle qui avait la fortune, ils n'ont pas pu aller plus loin. Il s'agissait de gagner des terres sur la mer, créer un polder, donner à chacun une maison pour vivre, établir une famille et pouvoir progresser. Ils ont englouti vraiment une fortune. Et d'autre part, j'ai un petit témoignage à vous confier que je viens de découvrir ce matin. J'ai travaillé, en fait, j'ai collaboré pour une entreprise allemande qui a été créée en 1850 et sur le principe du phalanstère et qui existe encore et qui avait été inventée par un universitaire qui était le professeur Abbé, c'est-à-dire que les physiciens, s'il y en a dans la salle, sont à l'origine de l'invention du microscope optique ou des lois du microscope optique avec un technicien, un mécanicien de précision qui s'appelait M. Zeiss, et qui ont créé l'entreprise Carl Zeiss, qui disposait en 1870 déjà d'une retraite et d'une sécurité sociale. La société depuis a évolué. Je ne pouvais pas être sociétaire lorsque je suis rentré en 1970 dans cette fondation, qui était sous forme de fondation, parce que j'étais étranger. Et je ne pouvais pas accéder à une place de cadre. Et je suis revenu en tant que cadre supérieur dans cette entreprise 20 ans plus tard, parce que la société était devenue capitaliste. Voilà.
Merci à vous. Alors, je n'oublie pas que cette journée compte 4 mouvements. Donc, nous allons prendre une dernière question ou une dernière intervention. Ce qui ne nous empêchera pas de continuer, évidemment, à discuter, à analyser tout ce qui a été dit dans la deuxième étape. Nous vous écoutons.
Oui, bonjour, Pierre Bécher, agent de l'hypernoderie, relâché avec le conducteur. Mon propos, et je ne veux pas m'empêcher de vous dire mon plaisir de parmi vous, et de vous dire le fondement, si vous voulez, de toute utopie depuis Thomas More, quant à Pétain, Morelier, etc., c'est ce double mouvement métaphysico-théologique, c'est-à-dire l'homme qui descend et qui renaît. Je veux dire par là, ce matin, je suis arrivé avec la pluie, j'ai été lavé, je suis ici. En fait, ma question, elle est motivée par l'étonnement que j'ai de l'entendre Fourier et ses quelques amis avoir concrétisé une idée qui n'était pas nouvelle, mais apparemment les premiers, une idée qui était dans l'air du temps et qui était portée à l'époque par maintes sociétés secrètes, maintes sociétés spéculatives. Alors je voulais savoir quel est le lien possible entre ces hommes et ces sociétés, car je ne vois pas la possibilité de faire émerger une volonté sans qu'elle soit assise, enracinée dans des sociétés.
Je vais passer le micro à Jonathan Bitcher. En effet, je vous ai parlé de Baudet-Dullary de mon côté, j'ai oublié un élément essentiel, j'en suis voulu après, c'est que Baudet-Dullary a démissionné. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai parlé de conversion, c'est que le métier de député consiste à réformer une société existante au vu et au-dessus de tout le monde et en passant de réforme en réforme. Il a compris que ça ne marcherait pas, que ses ambitions étaient trop hautes et que ça n'était pas le bon moyen d'agir. À partir de là, il est passé à autre chose, cette expérimentation. Alors, quel type de groupe, quel type de société ?
Alors, c'est une question. La question n'est pas exactement. C'est le rapport entre le fourierisme et le franc-maçonnerie.
Les sociétés secrètes.
Oui, enfin, je dirais que Oui, je dirais qu'il y avait tout un réseau de sociétés secrètes dans le mouvement républicain, alors ça n'a rien à voir avec le fourierisme, mais Fourier s'est intéressé beaucoup à la franc-maçonnerie. Et alors là, dans la théorie des quatre mouvements, justement, il y avait tout un chapitre sur la franc-maçonnerie, dans lequel il a semblé prendre comme une sorte de modèle, mais en disant qu'il fallait une franc-maçonnerie qui avait des allures ou des côtés sexuels. Enfin qui était dans lequel on faisait des expériences sexuelles. Mais alors, Fourier lui-même, il n'était pas franc-maçon. Et alors, mais il avait beaucoup d'amis qui faisaient partie de la franc-maçonnerie, et on avait spéculé beaucoup, enfin, sur les rapports entre Fourier et les loges maçonniques à Lyon. Mais dans les recherches que j'ai faites, en fait, j'ai très peu trouvé de rapports. J'ai très peu trouvé des indications de la participation de Fourier dans la franc-maçonnerie, mais il s'est intéressé quand même, il s'est intéressé beaucoup au mouvement. Et alors là, c'était plutôt, je crois, en résultat des communications qu'il a eues de ses amis à l'égard de la franc-maçonnerie.
Merci. Je pense que nous allons passer au deuxième mouvement dont je parlais tout à l'heure et je vous invite à continuer cette discussion. Monsieur Duzabou, un dernier mot.
Un dernier mot, je voudrais simplement vous parler de l'association des études fourieristes. Vous êtes nombreux, vous avez vu la jeunesse des intervenants, la permanence des intervenants, le côté international des intervenants, tout ceci se manifeste par l'existence d'une association à l'éduc fourieriste, dont Laurence Boucher peut vous donner l'enseignement pratique, peut obtenir des adhésions avec 15 euros par an. Vous avez droit à une revue, qui est ici. Vous avez droit également à la possibilité d'assister à une assemblée générale qui se trouve dans un cadre tout à fait exceptionnel cette année, ça sera le musée des Beaux-Arts de Besançon. Donc, je pense que ça va l'intéresser. Parallèlement, au fond, il y a des ouvrages, au fond, il y a des vitrines qui peuvent bien prolonger ce côté évidemment scientifique que on a eu la joie de vous faire partager.